nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Un soir, appuyé sur la rambarde de la terrasse d'un hôtel qui donne sur la mer, il a envie de la jeter par-dessus bord. Et il est pris de vertige et s'évanouit. L'on dit que c'est à cause de la chaleur. Mais son désir de morte lui reste à travers la gorge. Il se met à penser que si elle n'était pas là, que s'il ne l'avait pas connue, mais pas une seconde, il se dit qu'il pourrait la laisser et partir, disparaître à jamais. Et c'est le retour. Elle lui dit, il faut bien que tu retournes au travail. Il s'en retourne. Il a peur de ce qu'il va trouver à Lyon. et il rentre chez eux. Des tas de lettres à son nom. Sa banque qui lui dit qu'il doit une grosse somme et qu'elle ne fait plus crédit. Carrefour qui lui demande ses dernières sommes. Le loyer, la voiture et toutes les dépenses des vacances. Parce que comme la banque ne fait plus d'avance, elle prévient le créancier de donner les factures à Laurent. Elle lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit rien, des papiers. Mais dépense ce que nous avons fait, dépenser pendant nos vacances. Elle fait « Ah !» Pas l'idée de lui dire la vérité. Il a trop honte. Dette, chômage. La honte d'avoir des dettes. Que faire ? Faire semblant. On a été chercher les enfants à la colonie. Ils sont très heureux de leurs vacances. Ils sont heureux aussi de retrouver leur Laurent, leur Dieu, celui qui dit payer ou qui achète tout. Laurent aurait trop honte de les décevoir. Les enfants leur racontent leurs vacances heureux et leur mère leur dit leurs vacances. Laurent reste en dehors de tout ça, ne sait plus ce qu'il doit faire. Il aimerait s'effacer tout ce petit monde pour éviter de les décevoir, pour qu'il ne sache jamais ce qu'il est réellement, un homme sans travail, qui a des dettes. Oui, les effacer. Comment ? Comment effacer ces êtres jeunes, pleins de vie ? Comment ? Comment les effacer ? En les tuant. Les jours passent. fait semblant d'aller à son travail et passe ses journées à rien faire. Il roule, mais ça reste de temps en temps. Un jour, un matin, en prenant son petit déjeuner, il trouve une lettre. Elle lui dit qu'une personne de la banque viendra le voir, lui et sa compagne, pour discuter des chèques sans provision. Elle lui demande « Qu'est-ce que c'est que cette lettre ?» Il lui dit « Rien, un relevé de compte. » Il met la lettre dans sa poche. Il a honte et ne veut absolument pas que Babette connaisse ses ennuis. Il se demande comment il pourrait faire pour qu'elle ne le sache pas. Il vit une vie irraisonnable et ne peut penser raisonnablement. Il pourrait peut-être aller à la banque et leur parler sans qu'ils aient à se déplacer et à voir Babette. Ça n'arrangerait pas grand-chose. La banque leur retirerait sa carte et ferait saisir sur ce qu'il n'a pas pu payer. Et comme c'est chez Babette, elle verrait ses meubles télé et tout disparaître. Et puis après, il n'a plus de travail. Alors comment faire? Ne pense même pas à en chercher, parce qu'il s'est dit qu'il n'y en a pas. Si Babette sait ce qu'il est, une personne sans travail et qui a fait des dettes et des enfants, il aurait honte. Ne serait plus les revoir, ne pense même pas à les quitter, à partir loin, très loin, et disparaître, repartir à zéro. Parce qu'il se dit que s'il partait, elle saurait ce qu'il est et ce qu'il a fait. Non, il ne veut absolument pas. Il veut qu'elle le voie toujours en homme exceptionnel. Bien sûr, il pourrait se suicider, mais après sa mort, elle saurait qui il est réellement. Et ça, il ne veut absolument pas. Alors, que faire? Avoir de l'argent, laisser payer ses sales dettes, au moins, ça reculerait la chose. Mais où trouver de l'argent? Un emprunt? Personne ne lui prêtait. Aucune banque, puisqu'il est sans salaire. Qui ne connaît personne? Il se dit qu'il est sans salaire, et que sa femme est sans salaire, elle non plus. Lui se sent coupable de ne pas avoir de travail, mais il trouve normal qu'elle ne travaille pas. Il trouve normal qu'une famille vive à ses crochets. Une famille qui, officiellement, ne lui est rien. Le plus urgent, c'est de trouver de l'argent. Mais où ? Voilà. Voler ? À qui ? Où ? Comment ? Demander à qui ? Il ne connaît personne. Il passe des heures à réfléchir dans sa voiture. Il réfléchit. Il ne sait faire que ça. Et encore, si c'était positif. Connaît une personne qui pourrait l'aider et bien l'aider. Son père ne refuserait sûrement pas. Il regarde sa montre, 17h. Il peut aller le voir. Et il va voir son père. Va arrêter sa voiture rue de Gerland. Là, il se sent le moins sûr de lui. Il est gêné, la honte. Il sort de voiture. Ça lui fait drôle de revenir ici, de revenir sans travail, endetté. Lui qui est parti avec de l'argent, une voiture et une place fixe. Il entre dans l'immeuble de son père. Il le trouve petit, l'allée étroite et triste, mais il se dit qu'elle est tout de même mieux que celle de sa copine. Elle est plus propre. Elle est au moins propre. Pas plus propre, mais elle est au moins propre. Et il monte à l'étage. Il hésite. Sonne à la porte de l'appartement de son père. Il se demande ce qu'il va lui dire. Comment lui dire que son fils n'est plus rien ? Il va lui dire
qu'il est un incapable, un bon à rien. Il se dit qu'il aurait mieux fait, c'est de continuer à vivre seul dans le studio que lui a trouvé sa mère. Et sa mère, quand elle va le savoir, ce sera plus terrible qu'avec son père. Elle va lui dire, je l'avais bien dit, les femmes. Elle a dû te tenir par le sexe. C'est de sa faute si tu n'as plus rien. Elle a trouvé quelqu'un pour se faire entretenir, elle et ses enfants. Mon pauvre petit, comme tu es naïf. Il se dit non, non. C'est au-dessus de ses forces. Il s'apprête à s'en aller. La porte est ouverte. Laurent, c'est sa mère. Il se retourne et lui dit, tu es venu nous voir? Il dit timidement, oui. Elle lui dit, entre, ton père est ici. Il va vers elle, l'embrasse, elle le fait entrer, elle ferme la porte, elle lui dit, va au séjour. Il y va. Il entre. Son père est assis à une table, elle lit un journal.
Oh, c'est toi. Tu es venu nous dire bonjour.
Il embrasse son père et s'assoit en face de lui. Sa mère va s'asseoir à la droite de son mari. Son père lui dit,
ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous dire bonjour. Ça va?
Laurent lui dit, oui, timidement.
Dit, il paraît que tu as quitté le studio et que tu vis avec une femme.
Laurent lui dit, oui.
Son père lui dit, tu fais vite, mais remarque, tu fais ce que tu veux. Moi, ça ne me gêne pas. Parce que tu as du travail, de l'argent et même une belle voiture. Alors,
sa mère lui dit, moi, à ton âge, on n'avait pas tout ça.
Son père lui dit, nous sommes fiers de toi. Quand on voit les jeunes, ce qu'ils font et toi, tu vas de l'avant, tu vois, on arrive toujours à quelque chose lorsqu'on est sérieux. Toute la cité te donne un exemple et on dit que ces jeunes qui passent leur temps à sortir et à dépenser n'arriveront à rien, tandis que toi.
Sa mère lui dit, tu veux boire? Nous pouvons mourir en paix. Tu veux du café? Laurent lui dit, oui, merci, et complètement à plat, il ne peut plus rien faire. Elle se lève pour aller chercher le café.
Son père lui dit, elle se faisait du souci pour toi, mais puisque tu viens lui donner de tes nouvelles et qu'elles sont bonnes, elle est contente.
Il n'a rien donné du tout, ni de bonnes nouvelles. Il n'a rien dit. Mais ses parents ont cru qu'il leur avait dit qu'il allait bien. Et puisqu'il ne leur a rien dit, c'est que tout va bien. C'est ce qu'il s'imagine. Sa mère revient avec l'orfèvrerie. Elle ouvre le buffet pour prendre les verres, le sucre,
et les gâteaux secs.
Elle lui dit en savant, « Je suis sûre que tu ne sais pas le faire. » Son mari lui dit, « C'est sa copine qui le fait. » Elle se rassoit.
« Il faudra que tu nous la présentes. Elle est comment ?»
Laurent lui dit, « Je ne sais pas.
Elle est grande, blonde, elle a quel âge ?»
Laurent rougit, son père lui dit, dit à sa femme, « Laisse, tu le gênes. »
Elle lui dit, « Faudra bien qu'un jour il nous la présente. Tu la présentes quand ?»
Laurent lui dit,
« Je ne sais pas. Bientôt. »
Puis, ils boivent leur café. Le café chaud lui fait du bien. Ça fait des heures qu'il n'a rien pris. Puis, après avoir bu son café, il dit, « Je dois m'en aller. » Son père lui dit, « Ah oui, la patronne t'attend. » Ils se lèvent tous et vont vers la sortie.
Sortent-lui sa joue. Il embrasse ses parents. Sa mère lui dit, « Je suis heureuse que tout aille bien. » Et il sort. Bien heureux d'être sorti, mais en même temps furieux, qu'il n'a rien pu dire. Sa visite n'a servi à rien. À rien. Ah, rien du tout.
Dehors, il commence à faire nuit. L'ambiance de sa rue, il la connaît très bien. Il aimerait rester toujours et y fondre. Là au moins, il est sûr qu'il ne lui arrivera rien. Il entre dans sa voiture. Et la met en route.
Il se dit que rien n'est résolu. Que va-t-il faire pour que Babette et les enfants ne sachent rien ? Ne sache pas qu'il est un raté, lui, l'idole de ses parents, de Babette, de ses trois enfants. Il va décevoir tout le monde. Quelle honte! D'un coup, il ne saura plus rien. Plus rien. Que faire? Sans s'en rendre compte, il est arrivé devant l'immeuble de chez Babette. Il va arrêter la voiture.
Il sort de voiture. Il va rentrer dans l'immeuble.
Il sonne à la porte parce qu'elle ne lui a pas donné les clés. Elle lui ouvre.
Tu rentres bien tard.
Et lui dit, je vais aller chez mes parents. Il entre. Elle ferme la porte. Elle lui demande,
quand est-ce que tu me les présentes?
Il lui dit, bientôt. Ils veulent te connaître. Et il voit l'appartement réellement comme il est. Il le trouve moche.
Durant toute la soirée, il ne dit rien, regarde autour de lui, caresse ses enfants. Babette lui dit, faudra changer la chambre des enfants et peut-être déménager. Tu ne dis rien? Moi j'en ai assez de vivre ici, de ce lieu. Je veux vivre à Lyon, dans une rue, dans un immeuble. Alors? Il lui dit, oui. Il sourit. Ils ont passé la soirée devant la télévision, puis sont allés se coucher. Une fois dans son lit, il se dit, mon Dieu, faites à ce qu'il n'y ait pas de lendemain. Elle éteint la lumière et se retourne dans le noir. Il se retrouve dans le noir. Durant toute la nuit, il reste éveillé à réfléchir. Demain matin, l'homme de la banque vient le voir. Que faire ? Demain matin, l'homme de la banque vient la voir. Que faire ? Il a la gorge serrée. Il doit trouver une solution à tout ça. Mais quoi? J'ai l'impression que les heures passent et qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour éviter la catastrophe.
sa femme dort profondément. Elle est près de lui. Il se dit qu'elle dort si bien, c'est parce qu'elle a confiance en lui. Les petits aussi dorment, ont confiance en lui et sont heureux. Et à cause de lui, tout ce bonheur risque de basculer. Ils vont être à la rue sans rien. Il ne se rend pas compte ce qui lui arrive, ce qui va leur arriver. Alors qu'elle est aussi coupable, c'est elle qui l'a mise dans ses ennuis. Lui vivait seul, tranquille, dans son coin. S'il ne l'avait pas connu, il aurait continué à vivre tranquillement dans son studio et à travailler. Mais ne pense pas à ça. Il pense simplement qu'il va être déçu. Qu'ils vont être déçus par lui. Et ça lui est intolérable. Et ses parents aussi. Ses parents qui sont si sûrs de lui. Il doit être 2h du matin. Sa femme dort profondément près de lui, bien allongée sur le dos. Il sait que c'est sans retour. Il y aura toujours un avant et un après, quoi qu'il arrive. Et d'un geste brusque, plaque l'oreiller sur le visage de Babette. Ça l'a réveillée. Elle cherche, avec ses mains, d'enlever l'oreiller qui la tient très profondément. Elle s'abrite, elle s'agrippe à ses bras, les griffes, se secoue. Mais elle n'arrive pas à se dégager. Alors, il se plaque contre elle. Mais la tête sur l'oreiller. Essaye de libérer ses mains de Babette qui sont sur ses bras. Il arrive. Elle se débat comme elle peut, avec ses jambes. Il maintient ses jambes et son corps contre le sien. Il s'est plaqué contre elle. Il met sa tête sur l'oreiller pour la plaquer, pour plaquer l'oreiller sur sa tête. Elle se débat en poussant des petits cris. Elle se débat de moins en moins. Une secousse. Et plus rien. Il se soulève, il est en sueur, à chaud, la peur, la force. Il se soulève petit à petit, il veut voir si elle est bien morte.
Ils relèvent l'oreiller. Le visage ne bouge pas. Les yeux fixes ouverts. La bouche aussi. Ils se redressent complètement. Elle est bien morte. La chose sans retour a été faite. L'oreiller tombe à terre. Il sort de la chambre. Il va dans la chambre de la petite fille. Il s'approche du lit. Il dort sur le côté. La met sur le dos. Ça la réveille. À son cou, le reconnaît. Lui donne un baiser. Il lui dit, rendors-toi, il est encore tôt, ferme bien les yeux. C'est ce qu'elle fait, mais elle n'a plus sommeil. Elle reste les yeux fermés pour lui faire plaisir. Lui, d'un geste brusque, lui met la couette sur la figure. Il serre très fortement. Elle remue un peu, se débat. Elle zigote. Il se plaque contre elle. Elle ne bouge plus. Il soulève la couette. Elle est bien morte. Il se dit, je l'ai empêchée d'être malheureuse. Sur la chambre de la petite fille. Et là, il va aller dans la chambre des enfants. Là, ils sont deux. Il ne peut pas les tuer l'un côté de l'autre. Ils se débattraient. Ils seraient deux contre lui. Alors, il prend dans ses bras le petit, lui dit, et il sort de la chambre. Il mène l'enfant à la cuisine. L'enfant demande, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, tu vas rester debout et fermer les yeux. Il le pose à terre, au milieu de la cuisine. Ne bouge pas et ferme les yeux. L'enfant ferme les yeux. Maurice prend un couteau, un choir. Il lui en donne un coup. Le sang gicle. L'enfant tombe à terre. Oh! Au milieu de la pièce, Maurice lâche le couteau. Puis, va étouffer l'autre enfant. Une fois que c'est fait, il va retourner à la cuisine. Allumer le gaz et sortir de l'appartement. Une fois dehors, il prend sa voiture et la met en route. Et file, il sait qu'il lui reste qu'une seule chose à faire. Ne peut plus faire partie des vivants. Pourtant, il a fait ça pour eux, rien que pour eux. Il roule. Sort de la ville, il fait encore nuit, noir, il voit droit devant lui, il ne sait même pas où il va. Puis, il se dit qu'il doit faire vite, avant qu'il manque d'essence. Alors, il cherche en roulant. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.